Patricia Martin, le mot de la semaine, c'est maintenant. Et vous avez choisi le mot de la semaine, le tracking. Et vous en parlez avec Jean-Philippe de Rosier, qui est constitutionnaliste et constitutionnaliste, hein, c'est pas facile à dire, et professeur de droit public.
Jean-Philippe de Rosier, bonjour.
Bonjour.
On a le droit de dire traçage aussi, hein, parce que sinon nous allons choquer certaines oreilles d'auditeurs. Hier donc, en Conseil des ministres, le projet de loi sanitaire a été adopté. Il va être examiné ensuite au Sénat et à l'Assemblée nationale cette semaine. Alors on va en examiner les différents points, mais est-ce que dans l'ensemble, vous pourriez dire que la situation vous paraît préoccupante, c'est-à-dire sur le plan de la loi, est-ce qu'il y a quelque chose de liberticide ?
Oui, on a un projet de loi qui franchit encore une étape par rapport aux possibilités offertes au gouvernement pour restreindre les libertés, les droits et libertés des individus, des personnes, de l'ensemble de la population française. Et c'est cela qui est assez préoccupant. On a un gouvernement qui est de plus en plus liberticide et de plus en plus intrusif dans nos vies quotidiennes.
Dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire dans nos vies privées, en fait?
Dans nos vies quotidiennes et nos vies privées, bien sûr, dans notre vie privée, dans notre vie de tous les jours, celle de la famille, celle de notre vie qui ne regarde que nous, celle de notre maison, celle de nos amis, et cette histoire de tracking, de traçage va le montrer tout particulièrement.
Alors si on examine ce projet de loi sanitaire, donc effectivement, il y a la prorogation de l'état d'urgence d'abord.
Il y a d'abord la prorogation de l'état d'urgence.
Oui, déjà.
Il y a d'abord la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 24 juillet. Mais à la rigueur, ça, c'est peut-être le moins préoccupant parce que, effectivement, et on voit bien qu'il y a encore l'épidémie et qu'il faut encore prendre un certain nombre de mesures.
Mais d'ailleurs, on voit bien que le déconfinement n'aura peut-être pas lieu le 11 mai, hein.
Alors ça, c'est un autre aspect, effectivement. C'est un peu le gouvernement qui, justement, se pose en pater familias de l'ensemble de la population française en disant « Attention, il faudra bien être sage. Si vous voulez être déconfiné, il faut respecter les règles jusqu'au déconfinement. » Et même le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui nous dit « Si vous voulez partir en vacances, alors il faudra bien vous comporter même après le déconfinement. »
Les restrictions ont été durcies, c'est-à-dire on pense notamment à l'accès au transport. Il y a aussi la mise à l'isolement pour ceux qui entrent sur le territoire national.
En effet, alors d'une part, vous parliez des transports, une possibilité donc de réglementer l'accès aux transports, c'est notamment en vue d'imposer le port du masque obligatoire dans les transports et peut-être d'autres éléments qu'on ne nous a pas encore révélés. Et d'autre part, le placement en quarantaine de toute personne, la possibilité de placer en quarantaine de toute personne qui rentrerait sur le territoire national ou sur les Outre-mer ou qui arriverait des Outre-mer sur le territoire métropolitain. Et là, le préfet, de façon individuelle, pourra décider de placer en quarantaine, en réalité en quatorzaine, parce que la mesure s'appliquera pendant 14 jours d'abord, une personne à l'isolement. Alors bien sûr, elle aura des moyens de connexion, c'est pas totalement la prison, mais quand même ça s'y rapproche beaucoup parce que elle sera enfermée pendant 14 jours, ne pourra pas sortir du lieu où elle sera enfermée, et cela sans que le moindre juge, autorité judiciaire, qui est censée préserver la liberté individuelle et donc cette liberté de pouvoir circuler, ne soit saisie automatiquement. On pourra faire un recours, mais il ne sera pas informé lui-même, le juge, de cette mesure. Il ne sera pas saisi, il n'aura pas donné son avis au préalable, ce qui est effectivement assez extraordinaire pour une mesure aussi restrictive de liberté.
Oui, mais qui va constater, par exemple, la présence de la maladie ? Parce qu'il y a des médecins qu'on a entendus et qui, eux, ne sont pas d'accord. Et qui, ensuite, aura accès aux informations ?
Alors, pour le placement,
c'est pas très clair, ça.
Pour le placement en quatorzaine, a priori, ça doit se faire sous constat d'un certificat médical. Le préfet ne peut s'appuyer que sur un certificat médical, mais il n'est nullement dit, est-ce qu'il n'en faut qu'un ? Est-ce que le certificat médical doit être confirmé par un deuxième médecin ? Quel type de médecin ? Est-ce que c'est un médecin assermenté par l'État ? Est-ce que c'est mon médecin généraliste ? Tout cela est assez opaque pour l'instant. Gageons que les débats parlementaires qui vont se tenir lundi, mardi et mercredi, vont pouvoir éclaircir tout ça, mais ils vont se dérouler dans des conditions quand même assez exceptionnelles. On voit bien que la démocratie fonctionne, mais elle fonctionne quand même de façon restreinte et réduite ces dernières semaines, parce que les assemblées peuvent à peine se réunissent à une trentaine de membres, maintenant à 75.
Ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire, puisque ça passe au Sénat déjà demain.
Exactement.
Il y a aussi la question de la réquisition, Jean-Philippe de Rosier. Ça signifie quoi exactement? Ça recouvre quoi?
Alors effectivement, le projet de loi prévoit la possibilité de réquisitionner des personnes, des services et des biens. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire et à ma connaissance, ça n'existe pas dans le droit de telle façon. Jusqu'à présent, ce qu'il est possible de faire, c'est pour des secteurs très spécifiques, notamment la sécurité ou éventuellement même la santé, de réquisitionner des services, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai besoin de tel service parce que apparemment, on va avoir un problème notamment sanitaire. Donc il faut que ce service fonctionne et je vais en plus demander aux personnes en mesure de le faire fonctionner de venir travailler. Je les réquisitionne. C'est la création d'une sujétion, c'est-à-dire que la personne qui est à même de faire fonctionner le service va être obligée de venir le faire fonctionner. Là, le projet de loi parle de réquisition de toute personne et de services et de biens. C'est-à-dire qu'ils font la différence entre les personnes à même de faire fonctionner le service et toute personne, donc n'importe qui est en mesure, qui a le permis de conduire et qui est en mesure de conduire des bus parce qu'il faut transporter des personnes, ou des personnes qui sont particulièrement compétentes pour s'occuper des enfants, pourraient être réquisitionnées, par exemple, pour conduire des malades, pour s'occuper des enfants, du personnel soignant, etc., sans aucune garantie. Et une telle sujétion n'existe normalement que dans le domaine de la défense nationale, quand on est appelé sous les drapeaux pour servir le pays.
Reste le Conseil d'État et une saisine peut-être du Conseil constitutionnel, à la fois par le président du Sénat et par le groupe socialiste au Sénat.
En effet, alors il faut d'abord les débats parlementaires et voir ce qu'il en ressortira. Oui. Mais en l'état, le Conseil d'État a examiné le projet de loi, comme il le fait systématiquement, et effectivement le gouvernement l'a modifié, mais véritablement à la marge. Et le président du Sénat ainsi que le président du groupe socialiste au Sénat ont annoncé que ils envisagent en l'état de saisir le Conseil constitutionnel, mais qui lui aussi n'aura que très peu de temps pour se prononcer, parce que le projet de loi va être adopté le 7 ou le 8 mai, et il faut qu'il déploie ses effets dès le 11 mai. Donc il aura à peine le week-end prochain pour se prononcer, ce qui est absolument, absolument extraordinaire.
Merci beaucoup Jean-Philippe de Rosier. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public. Merci.
Merci à vous.
Le mot de la semaine, c'était Patricia Martin avec son invité.